77. Élise. Thomas m'appelle rarement. Par conséquent, quand son nom s'affiche sur mon écran alors que je suis en train de dîner, j'imagine le pire.
Salut, Mam.
Tout va bien, chérie ?
Oui, j'avais juste envie de t'entendre.
Je connais cette voix. Il avait la même enfant quand la mélancolie l'envahissait.
« Tu m'aimeras toujours, hein, maman ?»
me demandait-il parfois après l'histoire du soir. Je le rassurais. « Je t'aimerai toujours, et même après, mon tout petit. » « Il s'est passé quelque chose ?»«
Non, rien. T'inquiète, c'est juste un coup de mou. Des fois, je me sens un peu seule. »
Mon fils est un hypersensible. Ses émotions débordent souvent, ses angoisses l'étranglent parfois. Il aime plus fort, s'inquiète plus fort, a mal plus fort, se contrarie plus fort. J'en ai passé des heures à l'entendre s'extasier parce que la lune était pleine, parce que son nouveau vélo lui plaisait, parce qu'il arrivait à jouer un morceau de guitare, parce que la fille lui avait souri. J'en ai passé des heures à le réconforter parce qu'il avait fait un mauvais rêve, parce qu'il s'était écorché le genou, parce qu'il avait compris qu'on allait mourir, parce que la fille l'avait quitté. Au fil des années, il s'est tricoté une carapace de nonchalance. Il a appris à manier l'ironie. Mais je sais ce qui se cache dessous. Si je le pouvais, je sauterais dans la voiture et j'irais le rejoindre. Je voudrais tellement que mes enfants vivent à deux rues d'ici. Mais ce n'est pas le cas, donc il faut développer d'autres stratégies. « Tu ne fais rien ce soir ?» je demande.
« Non, mes potes sortaient, j'avais pas envie. »
« J'ai une idée, chérie. On va passer la soirée ensemble. » 10 minutes plus tard, attablée dans la cuisine, mon ordinateur portable posé face à moi, je reprends mon repas où je l'avais laissé.
« Tu manges quoi ?»
interroge mon fils dans l'écran. « Une salade de lentilles. Et toi ?»«
Des pâtes bolo. »
Il me montre la boîte en carton qui contient son plat. Il a retrouvé le sourire. Pendant plus d'une heure, nous discutons comme avant, comme s'il était là. Il évoque ses cours, plus difficiles qu'il ne l'avait imaginé, le petit groupe de rock qu'il est en train de monter avec ses amis. Ils ont trouvé un bar qui accepte de les laisser jouer. Sa rencontre avec elle. Mais c'est compliqué. Il ne se voit pas assez souvent qu'il le voudrait. Il prend des nouvelles de moi. S'étonne en riant que je parvienne à vivre sans lui. M'annonce qu'il viendra comme sa sœur passer les vacances de Noël avec moi. À la fin du repas, je coupe une tranche de pain et dépose un carré de chocolat dessus avant de l'enfourner. De l'autre côté de l'écran, il fait la même chose. Notre rituel se transforme en petit moment extraordinaire. C'est peut-être cela le bon côté de l'éloignement. Être ensemble est tellement rare que l'on en mesure la valeur. Cette tartine-là n'a pas la même saveur que toutes les autres. Le chocolat est plus puissant, le pain plus moelleux et le sourire de mon fils plus émouvant. Rien n'a disparu, rien n'a changé. Charline et Thomas sont grands, ils sont loin, mais je serai toujours leur maman. 78. Lily. 60 grammes, c'est le poids de ta liberté. Sa prise de poids est suffisante pour vous laisser sortir, a annoncé Florence. Le médecin va passer vous donner les prescriptions et les recommandations. J'ai rangé tes affaires, empaqueté les miennes, décroché le poster, posé les draps en boule au pied du lit. Une dernière fois, je t'ai donné un bain dans le lavabo blanc. Tu n'as pas desserré les poings, tu as hérité de l'amabilité de ta mère. J'étais en train de te vêtir quand le docteur Bonvin est entré.
« Je tiens toujours mes promesses », il a déclaré.
J'ai revu le moment où il était venu me rassurer, m'affirmer que tout allait bien se passer. Il avait l'air sincèrement heureux que sa prédiction se réalise. « Merci, docteur », j'ai murmuré la gorge serrée. « Votre bienveillance a été précieuse. » Il a haussé les épaules, comme si son attitude était normale. J'ai respecté son humilité, même si nous savions tous deux que la générosité et la délicatesse n'étaient pas forcément fournies avec la blouse blanche. L'interne désagréable en était un parfait exemple. Ou le radiologue qui m'avait reproché d'être trop grasse. Ou le médecin qui nous avait expliqué, détail à l'appui, à quel point notre mère avait dû souffrir. Ou celle qui avait demandé à ton papy, encore sonné, s'il avait pu la pousser à commettre ce geste. L'empathie ne s'apprend pas. Le docteur Bonvin fait partie de ceux qui en sont dotés. Ils ne sont pas rares, pas nombreux non plus. Ils se cachent souvent dans des services où leur bienveillance apaise les âmes. Il nous a souhaité le meilleur, puis est parti panser d'autres plaies. Florence est arrivée peu après. « Je dois aller aux soins, donc je passe vous dire au revoir vite fait. Je suis heureuse que vous rentriez chez vous.
J'ai observé ses cheveux sombres, son sourire lumineux et son regard empli de douceur. Je ne voulais pas pleurer, j'avais maquillé mes cils. Mais quand j'ai ouvert la bouche et que je lui ai dit merci, merci infiniment pour la patience, l'écoute, la tendresse, merci d'avoir choisi ce travail, merci d'avoir été la bonne fée de ma toute petite, quand je lui ai bafouillé qu'elle allait me manquer, alors le noir a coulé sur mes joues. J'ai repensé à ce couple dont l'émotion lors du départ m'avait étonnée il y a quelques semaines. On ne comprend vraiment les choses que quand on les vit. Florence a serré ma main, longtemps. Sa bouche ne disait rien, mais son regard compensait. Et elle a quitté ta chambre comme si on devait se revoir demain. Il était midi quand ton papa a déboulé ton siège auto pendu au bras. Son sourire mangeait tout son visage. Il était l'heure de faire nos adieux. Tu dormais, blotti contre moi. Une dernière fois, on a remonté le long couloir. Je l'avais détesté, j'avais haï cet endroit. Ces murs aux couleurs pastel, ces stickers enfantins, cette odeur de désinfectant, ces sonneries incessantes, ces portes vitrées, ces bruits de chariots, ces volets baissés. Pourtant, peu à peu, c'était devenu notre premier chez nous. L'hôpital que l'on imagine sinistre, où l'on espère ne jamais avoir à résider, s'est avéré être un lieu de vie. S'y percutent les émotions les plus intenses, s'y télescopent les destins abîmés. La vie côtoie la mort, la terreur cohabite avec l'espoir, la joie succède au découragement, la sensibilité est exacerbée, le bonheur déborde, le chagrin est insondable, l'insignifiant n'existe plus, l'essentiel le devient vraiment. Les carapaces, les postures se dissolvent, on flotte sur le même radeau, le cœur autour du cou, fenêtre ouverte sur tripes, on se rencontre sans bouclier, sans distance. Les chemins s'entrelacent le temps d'un séjour, on se tient la main, on se livre, on se dévoile, on se comprend, on s'entraide, on s'encourage, on s'attache. Nos colocataires de la néonate nous attendaient dans la salle des familles. Les parents de Milo t'ont offert un album photo à compléter au fil de ton enfance. Ils avaient reçu une bonne nouvelle, ils allaient pouvoir passer en chambre parents-enfants. La maman des triplés a glissé un paquet dans la main de ton papa, nul doute qu'il contient des gâteaux. La maman de Clément avait enfilé son regard noir. Ils nous ont raccompagnés jusqu'aux portes battantes. On s'est embrassés et promis de se revoir. On ne se reverra pas. Pas plus que je ne reverrai Florence, Estelle, Eva, le docteur Malois, le docteur Bonvin, Laetitia, Selena et tous les autres. Pourtant, je sais au plus profond de moi que je ne les oublierai jamais. Un jour, je te parlerai de ces personnes qui ne font que traverser notre vie, mais la marquent à tout jamais. Un jour, je te raconterai ces rencontres éphémères indélébiles.